Laudetur Jesus Christus.
Radio Vatican, le journal, Olivier Bonnel.
Bonsoir. La tension est toujours vive dans le Caucase entre Arménie et Azerbaïdjan. Depuis hier, les combats entre les deux pays ont repris dans la région disputée du Nagorno-Karabakh, provoquant l'inquiétude de la communauté internationale. Au moins 58 soldats arméniens de cette province disputée ont été tués. Aucune précision n'a été donnée, en revanche, sur le bilan des pertes du côté azerbaïdjanais. Quoi qu'il en soit, les deux pays s'accusent mutuellement d'être à l'origine de cette nouvelle escalade de la violence et chacun peut compter sur l'appui de ses alliés. Plus de précisions avec Xavier Sartre.
Des tirs d'artillerie, des bombardements aériens, les combats de ce week-end et d'aujourd'hui sont les plus meurtriers depuis des mois dans les montagnes du Caucase. Bakou, fort de son droit sur le Nagorno-Karabakh, a lancé dimanche une offensive en réponse à ce qu'il a qualifié d'agression arménienne. Le président azerbaïdjanais a promis de vaincre, tandis que le premier ministre arménien Nikol Pachinian a accusé Bakou d'avoir déclaré la guerre au peuple arménien, le Nagorno-Karabakh étant majoritairement peuplé d'Arméniens. La Russie, devant la dégradation de la situation à sa frontière sud, a appelé les deux voisins au dialogue et à la cessation immédiate des hostilités. Une volonté d'apaisement contrecarrée par la Turquie, alliée de l'Azerbaïdjan. Son président, Recep Tayyip Erdogan, a réclamé la fin de l'occupation arménienne du territoire enclavé. L'Union européenne juge de son côté la situation très préoccupante et juge toute ingérence dans cette région inacceptable. Les chancelleries redoutent qu'en cas d'aggravation et de guerre ouverte, les intérêts divergents de la Russie et de la Turquie ne fassent qu'envenimer un conflit qui, depuis l'éclatement de l'Union soviétique, n'a toujours pas trouvé d'issue.
L'Arménie qui a saisi d'urgence ce lundi la Cour européenne des droits de l'homme pour demander des mesures provisoires à l'encontre de l'Azerbaïdjan. Hier, après la récitation de la prière de l'Angélus, le pape François avait demandé aux parties en conflit de cesser le bruit des armes et de privilégier le dialogue et la négociation. Le Bélarus au cœur de la visite d'Emmanuel Macron ce lundi en Lituanie. Le président français est attendu à Vilnius, la capitale lituanienne. L'opposante Bélarus qui vit en exil, Svetlana Tikhanovskaya, l'a appelé à jouer les médiateurs et pourrait rencontrer Emmanuel Macron. Hier, le chef de l'État français avait appelé au départ du président Bélarus Alexandre Loukachenko. Le Bélarus ou encore des milliers de personnes ont défilé hier pour demander le départ du président. Un geste de réconciliation du premier ministre croate ce lundi, Andrej Plenković, a assisté à une cérémonie à la mémoire de 9 civils serbes tués à Varivode, un village du sud de la Croatie. C'est la première fois qu'un chef du gouvernement croate assistait à cette cérémonie organisée traditionnellement par une organisation de Serbes en Croatie. Le premier ministre adjoint d'origine serbe Boris Milošević a parlé d'événements majeurs et de gestes symboliques très forts. Le président catalan Quim Torra, destitué, le tribunal suprême espagnol a confirmé ce lundi la condamnation du président indépendantiste à 18 mois d'inéligibilité pour désobéissance. Condamné en première instance, Quim Torra avait refusé d'obéir au tribunal électoral, lui enjoignant de retirer une bande rôle séparatiste de la façade du siège du gouvernement régional à Barcelone avant les législatives d'avril 2019. Cette condamnation pourrait raviver les tensions chez les indépendantistes catalans. La pandémie de Covid-19 continue de faire des victimes et la contagion se poursuit à travers le monde à des rythmes irréguliers selon les pays. Selon les chiffres de l'OMS, plus d'un million de personnes sont désormais mortes du virus dans le monde depuis son apparition en Chine il y a 9 mois. Parmi les pays les plus touchés, l'Inde, qui a dépassé ce lundi la barre des 6 millions de cas de contamination. Le pays enregistre chaque jour près de 90 000 nouveaux cas et s'apprête à devenir l'épicentre de l'épidémie. Mais la population indienne donne des signes de lassitude face à cette crise qui n'en finit plus. Les précisions de notre correspondant à New Delhi, Emmanuel Derville.
Voilà 7 mois que l'épidémie a commencé en Inde et la population ne voit toujours pas le haut de la première vague. Le pays devrait dépasser les États-Unis en nombre de cas vers la mi-octobre et dénombre 95 000 morts. Pourtant, les Indiens commencent à sortir de chez eux. Le port du masque est de moins en moins respecté. Le gouvernement du Premier ministre Narendra Modi minimise la situation et défend son action à travers 2 indicateurs. Il martèle que rapporté à une population de 1,3 milliard d'habitants, le pourcentage de malades et de morts est moins élevé qu'en Occident. Il vante aussi la montée en puissance des tests à près d'un million par jour. Surtout, les autorités comptent sur un vaccin pour remédier à la crise. Le ministre de la Santé répète depuis 3 semaines qu'un antidote sera disponible en début d'année prochaine, alors que les tests, toujours en cours, laissent planer une incertitude, à croire que la résignation a gagné le sommet de l'État. New Delhi, Emmanuel Derville pour Radio Vatican.
La lumière sera peut-être bientôt faite sur le massacre de Conakry. Il y a tout juste 11 ans, le 28 septembre 2009, des militaires avaient tué au moins 157 personnes et violé 109 femmes dans le stade de la capitale guinéenne où étaient rassemblés des milliers d'opposants à la candidature à la présidentielle du chef de la junte, Moussa Dadis Camara. Ce lundi, les autorités guinéennes ont promis pour bientôt un procès. Un procès très attendu par la société civile et la communauté internationale. La semaine passée, la France, les États-Unis et l'Union européenne ont appelé le gouvernement guinéen à tenir un procès dans les plus brefs délais afin de démontrer son engagement à promouvoir la paix et à rejeter toutes les formes de violence. Il y a tout juste 50 ans, le 28 septembre 1970, l'Égypte et le monde arabe étaient en deuil. Gamal Abdel Nasser disparaissait à l'âge de 52 ans. La mort du raïs égyptien, l'un des pères du nationalisme arabe, provoquait une onde de choc considérable dans toute la région. L'héritage de celui qui nationalisa le canal de Suez en 1956 reste modeste dans l'Égypte d'aujourd'hui. En Colombie, c'est une confession à laquelle certains ne s'attendaient pas. Le 15 septembre dernier, Rodrigo Londoño, alias Timoshenko, chef de l'ancienne guérilla des FARC, a reconnu les atrocités longtemps menées par ses combattants, estimant que les enlèvements avaient été une très grave erreur. Ancienne guérilla la plus puissante de Colombie, les FARC ont pratiqué pas moins de 37 000 enlèvements en plus de 40 ans de combat contre le gouvernement de Bogota. Depuis les accords de paix signés en 2016 entre les anciens paramilitaires et le gouvernement colombien, les FARC sont devenus un parti politique. Cette démarche de repentance a été largement saluée dans le pays. Un discours de vérité des FARC qui est un pas en avant dans le processus de réconciliation colombien, même s'il reste encore beaucoup à faire. C'est ce que nous explique Frédéric Massé, spécialiste de la Colombie.
C'est une prise de position, c'est une annonce importante, dans la mesure où c'est la première fois depuis 50 ans, on va dire depuis le début du conflit, que les FARC reconnaissent, utilisent le mot enlèvement. Avant, il y avait des contorsions sémantiques pour dire que c'était des rétentions illégales, mais on ne parlait jamais d'otages. Le mot otage et enlèvement n'était pas prononcé, donc c'est la première fois qu'elles reconnaissent ouvertement les faits et qu'elles demandent pardon pour ces faits. Donc c'est effectivement un pas important. C'est une annonce qui, en partie, répond à des pressions, des demandes insistantes de la société colombienne envers les FARC pour davantage de vérité.
Est-ce que vous pensez que cette confession, justement, est un progrès encore sur ce long chemin qu'est la réconciliation nationale ?
Alors c'est important bien sûr, insuffisant, puisqu'il y a d'autres sujets qui sont épineux. Il y a le cas des enlèvements, il y a le cas du recrutement forcé, il y a le cas des violations sexuelles. Et donc depuis un mois, depuis les premières comparaisons des dirigeants des FARC vis-à-vis de la justice spéciale de paix, la REP, comme on dit en espagnol, et aussi dans le cas de la commission de la vérité, il y a eu un certain nombre de confessions à géométrie variable et de frustration parce que les FARC admettent à demi-mot un certain nombre de faits, notamment les recrutements de mineurs où on a eu des confessions ou des témoignages différents, divergents selon les différents dirigeants des FARC. Et même Timoshenko, le leader des FARC, qui devant la REP ne reconnaissait pas l'existence de recrutement forcé, a ensuite admis qu'il y avait eu effectivement des pratiques et que la possibilité existait qu'il y ait eu effectivement des recrutements forcés.
Pour les familles des victimes, des personnes qui ont été enlevées, combien est-ce important dans ce processus de réconciliation ?
C'est un point très important au niveau du travail psychologique des victimes, puisque la première chose est de reconnaître les faits. On ne peut pas demander pardon sur quelque chose qui n'est pas reconnu. Donc je crois que c'est un point très important. Le fait de reconnaître une certaine vérité est un premier pas, mais il faut aussi savoir admettre les conditions dans lesquelles ont été retenues ces personnes, pourquoi ces personnes ont été enlevées, etc. etc. Je crois qu'il y a encore un certain nombre de travail à faire à ce niveau-là.
Ce qui est très frappant, c'est qu'au-delà de l'aspect militaire, sécuritaire et du combat de la guerre civile, on sent vraiment qu'il y a un devoir de libération de la parole. Quand vous parlez de violences sexuelles ou de recrutement des enfants, on sent bien que ce sont des nœuds encore qui n'ont pas été dénoués.
Tout à fait. Le processus de catharsis commence à peine, sachant d'autre part qu'il y a une utilisation, il y a une politisation de ces thèmes. C'est-à-dire qu'en fait, on est dans un contexte de polarisation assez forte en Colombie. Et malheureusement, tous les témoignages, dans un sens ou dans un autre, sont souvent utilisés par les différentes parties pour jeter l'huile sur le feu. À l'approche aussi, finalement, on est déjà pratiquement rentré en campagne présidentielle, même si c'est en 2022. Il y a déjà des débats, il y a déjà des manœuvres. Et donc, peut-être que ce climat ou ce contexte ne favorise pas forcément la révélation d'un certain nombre de vérités sur le conflit.
Frédéric Massé, spécialiste de la Colombie, était l'invité de Radio Vatican. Ainsi s'achève ce journal. Merci de nous être fidèles. L'information du Vatican, de l'Église et du monde reviendra demain matin en direct à 8h30. Je vous souhaite une excellente soirée.